Ligue des Champions. Ce sera à 20h45 heure de Paris, tout à l'heure, donc au Parc des Princes. Il est 18h10 à Paris.
Mardi politique, en partenariat avec Libération et France 24.
Valérie Gasse.
Bonsoir, bienvenue dans Mardi Politique. Nous recevons ce soir Didier Guillaume, sénateur de la Drôme et président du groupe socialiste au Sénat. Bonsoir Didier Guillaume.
Bonsoir.
À mes côtés pour vous interroger, Roselyne Fèvre de France 24. Bonsoir Roselyne.
Bonsoir Valérie.
Et Lilian Alemania de Libération. Bonsoir Lilian.
Bonsoir.
Alors Didier Guillaume, la semaine dernière, l'actualité politique a été, on peut dire, très mouvementée. Il y a eu le débat et le vote sur la révision constitutionnelle à l'Assemblée nationale. Nous allons y revenir un petit peu plus tard, mais aussi le remaniement qui a fini par avoir lieu lui aussi. On en parlait depuis des mois et cette fois c'est fait. Et c'est la nomination de Laurent Fabius au Conseil constitutionnel qui a donné l'occasion à François Hollande de changer son équipe. Alors tout d'abord, j'ai envie de vous demander, on a appris hier soir que Laurent Fabius finalement quittait la présidence de la COP21 après son départ du ministère des Affaires étrangères. Il voulait conserver la présidence de la COP21 malgré tout. Est-ce qu'il a bien fait ?
Oui, il a bien fait. Je pense que Laurent Fabius a été un très grand président de la COP. C'est la première fois au monde qu'un accord international de cette ampleur a été signé. Il y a pris une part prépondérante aux côtés du président de la République. Il aurait évidemment, parce qu'il s'est passionné pour ce dossier et pour ces enjeux planétaires, il aurait voulu continuer. Mais je pense qu'en étant président du Conseil constitutionnel, s'il le devient, ce n'est pas possible. Il a bien fait de reculer, oui, de s'arrêter.
Il recule parce qu'il dit qu'il y a une polémique, qu'il ne veut pas de polémique. Est-ce qu'il n'aurait pas dû tout simplement dire qu'il renonçait tout de suite ? Il n'y a pas un petit péché d'orgueil ?
On peut toujours se poser la question de savoir qui aurait dû dire cela ou cela. Il s'est passionné pour ce thème et il aurait fait un très bon président pour continuer, pour mettre en place la suite, les engagements qui ont été pris, pour aller jusqu'à Marrakech pour la COP22. Ce n'est pas le cas, dont acte. Et puis... Il y aura quelqu'un d'autre qui prendra la place.
Alors ce quelqu'un d'autre, c'est Ségolène Royal, c'est elle qui a priori devrait reprendre la main. Elle a obtenu dans le remaniement, alors elle n'a pas obtenu le Quai d'Orsay qu'elle voulait, mais elle a quand même obtenu le rattachement au ministère de l'écologie des relations internationales sur le climat. Logiquement, elle devrait reprendre la présidence de la COP, non ?
Je n'ai aucune information, c'est possible.
Ça vous paraît souhaitable, envisageable ?
Oui, c'est la ministre de...
Une bonne idée.
C'est la ministre de l'Environnement, elle a un portefeuille légèrement élargi. Oui, je pense que ça pourrait être elle, mais je ne sais pas qui désignera le président de la République.
Ok. Sur ce remaniement, on a du mal quand même à comprendre le sens que François Hollande a voulu lui donner. On n'a pas un gouvernement de combat, on n'a pas vraiment un gouvernement plus réformateur qu'avant le remaniement. En gros, c'est un gouvernement qui va gérer les affaires courantes.
C'est pas très gentil pour les ministres. Vous savez, un remaniement, les Français regardent ça de loin. Et puis les commentateurs politiques se disent quand est-ce qu'il va avoir lieu ? Et puis quand il a lieu, ils disent ça va aller, tout ça pour ça. On connaît, c'est vieux comme le monde, ça fait des décennies que c'est comme cela. Ce remaniement était issu d'une conséquence, vous l'avez dit, la nomination de Laurent Fabius au Conseil constitutionnel. Le président de la République a souhaité affirmer des choses claires. La cohérence de la ligne politique. Il ne s'agit pas de changer de ligne. La ligne politique sociale réformiste voulue par le chef de l'État et le Premier ministre est la bonne. Elle doit continuer, elle doit être réaffirmée et elle l'a été. La deuxième orientation, c'était élargir le gouvernement. Et le retour d'écologistes au gouvernement est pour moi une bonne chose. Après une COP21 réussie, nous en parlions il y a quelques instants, personne ne comprenait qu'il n'y ait pas d'écologistes dans ce gouvernement, d'autant plus que lorsqu'ils ont quitté le gouvernement en 2014... Cécile Duflot et Pascal Canfin, c'était sur une posture polémique et politicienne.
Alors que aujourd'hui, là, ils reviennent, les écolos, sur autre chose qu'une posture où ils ont envie de gouverner.
Mais ils reviennent parce qu'ils ont envie de gouverner, de mettre les mains dans le cambouis, parce que quand le pays est en difficulté, quand on réussit la COP21, quand il a beaucoup de réformes à faire, c'est normal que les réformistes soient au gouvernement. Et ils le sont, donc je pense que c'est une très bonne nouvelle. C'est très bien que le président de la République ait demandé à des écologistes d'entrer.
Roselyne Fèvre.
Quand vous dites une très bonne nouvelle, premièrement, on se demande quel sens ça a, comme le disait Valérie, à s'échiner, à prendre des verres qui, de toute façon, c'est une majorité peau de chagrin. Donc, à quoi ça va servir? Et deuxièmement, donner le ministère à Emmanuel Cos du logement, qui a été le ministère où, quand même, Cécile Duflot a fait des étincelles, mais pas dans le bon sens. Est-ce que ça, c'est un bon signal? Et est-ce qu'il n'y a pas une petite diablerie, quand même, à donner ce Marocain à... Non, Emmanuel Cos.
Un petit calcul peut-être.
Il n'y a pas ni calcul ni diablerie. D'abord, Emmanuel Cos est ministre du logement, de la rénovation thermique, oui, et de l'isolation. C'est très important.
C'est pas un bon signal pour les professionnels du bâtiment.
Non, pas du tout. J'ai entendu ce qu'on dit un certain nombre de responsables. Aujourd'hui, il n'y aura pas de nouvelle loi logement en perspective. Mais il faut accélérer un certain nombre de choses. Accélérer la loi Pinel, qui a été une excellente loi. La loi Pinel est revenue sur peut-être des erreurs que nous avions pu commettre ou des choses qui ne fonctionnaient pas dans la loi Duflot que j'ai votée. Donc je suis d'autant plus à l'aise pour en parler. Mais on avait vu que cette loi avait totalement calminé la construction de logements neufs.
On est d'accord.
Oui, bien sûr, on est d'accord. Sylvia Pinel est arrivée derrière.
Donc l'a donnée à une autre
verte. Sous la houlette de Manuel Valls, cela a permis de déclencher les choses. Et Sylvia Pinel a été plutôt bien vue, plutôt bien ressentie par les professionnels du logement. Et là, Emma Cos arrive sur la ligne du gouvernement, sur la ligne du Premier ministre, pour notamment accélérer la rénovation, accélérer l'investissement et faire en sorte que, parce qu'il y a de l'argent en jeu, possible, disponible, il puisse y avoir de l'argent qui débloque en partie l'activité économique par la rénovation de logements, par la construction de logements sociaux, par la construction de logements neufs. Donc je ne pense pas que c'est ni une diablerie, ni quoi que ce soit. Je pense que ça va, là encore, dans le bon sens.
Lilian Lemagna.
Didier Guillaume, vous dites que Cécile Duflot et Pascal Canfin avaient quitté le gouvernement sur une posture, certes, parce que Manuel Valls avait été nommé Premier ministre et que Cécile Duflot ne s'entendait pas avec lui, mais c'était aussi sur une raison politique, c'est-à-dire qu'il ne critiquait depuis plusieurs mois, Cécile Duflot l'a fait en privé puis en public, sur la ligne économique du gouvernement. Et à cette époque-là, Emmanuel Cos était déjà secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, critiquait de la même manière l'orientation économique du gouvernement qu'elle vient de rejoindre. Et elle a critiqué il y a quelque temps, comme l'a fait Christiane Taubira, la question de la déchéance de nationalité. Donc,
c'est pas la seule au gouvernement. Hein. Il y a aussi Hélène Geoffroy, qui est la nouvelle secrétaire d'État à la ville, qui a voté contre la déchéance de nationalité.
Vous parlez de cohérence, mais est-ce qu'on va pas aller très vite vers des ministres qui ne seront pas d'accord avec le Premier ministre?
Non, je ne crois pas. Je vous disais qu'en 2014, Cécile Duflot et Pascal Canfin avaient quitté le gouvernement sur une posture politicienne. Pourquoi? Parce que la ligne politique n'a pas changé avec l'arrivée de Manuel Valls comme Premier ministre. C'était la même avant. Donc ça a été l'occasion pour s'en aller. Depuis, le pays s'est enfoncé dans une crise tout aussi forte. Le terrorisme, la guerre en Syrie, on voit ce qui se passe aujourd'hui à Alep, d'énormes difficultés. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut rassembler le pôle réformiste. La gauche aujourd'hui est divisée, je crois, en deux blocs. Celles et ceux qui sont un peu plus radicaux, la gauche de la gauche, qui se complaisent d'ailleurs parfois, et ce n'est pas une critique, dans la contestation. C'est toujours plus facile de manifester que de créer, c'est toujours plus facile de critiquer que de faire. Et puis il y a la prise de conscience, celles et ceux, dans l'écologie politique comme ailleurs, qui pensent qu'il vaut mieux être aux responsabilités, membre d'un gouvernement, pour peser, et je pense que Emmanuel Cos, Barbara Pompili et Jean-Vincent Placé, au gouvernement, pourront peser et mettre encore plus en exergue l'écologie politique. Vous savez, la social-écologie, ce sont les socialistes qui la portent. Aujourd'hui, Barbara Pompili aura dans son portefeuille le climat. Je crois que c'est quelque chose de très important.
Vous mettez Emmanuel Cos dans les réformistes ?
Ah oui, bien sûr. J'ai mis Emmanuel Cos dans les réformistes. Elle a accepté d'entrer au gouvernement pour aider ce gouvernement à réussir. Alors après, vous me posez une autre question, parce que moi, je n'élude rien. Je ne fais pas de langue de bois sur la déchéance de nationalité.
Ouais.
Il y a eu des positions qui ont été prises. Vous l'avez rappelé. Il y a sûrement des ministres qui n'étaient pas favorables à cette.
Mais on fait rentrer une ministre qui n'a pas voté la révision, c'est quand même.
Oui, une secrétaire d'État qui n'a pas voté
c'est
la révision.
Alors là, à la contestation.
On peut pas dire que ce soit un calcul politique puisqu'elle est socialiste. Elle était maire de Vaux-en-Velin, donc il y a rien derrière. Tout simplement parce que le gouvernement doit aussi rassembler les différentes positions. Lorsqu'on entre dans un gouvernement, le Premier ministre l'a dit, soit on est d'accord avec la ligne globale du gouvernement, soit on n'y vient pas. Je pense que Hélène Geffroy, que je connais, est d'accord avec la ligne globale du gouvernement. Elle va apporter sa pierre dans un secteur qu'elle connaît bien, qui est celui de la ville, et sur lequel elle travaille en banlieue lyonnaise, en faisant beaucoup de travail dans sa commune de Vaux-en-Velin.
Elle est d'accord sur la ligne globale et pas d'accord sur les détails. Comme Emmanuel Cos n'est pas d'accord, par exemple, sur l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Là, on va avoir des conflits à l'intérieur même.
Non, je ne crois pas.
L'intérieur même du gouvernement. On a Jean-Marc Ayrault, qui est un farouche défenseur du projet. Français, Manuel Coste qui conteste depuis longtemps, et tous ces gens-là sont au sein du même gouvernement. Ça va être dur d'arbitrer.
Non, parce que ce qui compte avant tout, je crois, c'est la ligne économique et sociale. Lorsque nous faisons la prime d'activité, où plusieurs millions de Français vont avoir une augmentation forte du pouvoir d'achat, lorsque nous réformons l'assurance maladie sans changer notre modèle social, et je veux saluer Marisol Touraine pour le travail qu'elle a fait, lorsque nous réduisons le déficit, lorsque nous faisons le camp de pénibilité, lorsque nous baissons les impôts, lorsque nous réussissons la COP21, lorsque nous travaillons sur la rénovation énergétique, c'est l'axe politique. Et cela se passe sur une orientation économique forte. La politique de l'offre avec le pacte de responsabilité, la baisse des charges pour les entreprises, et tout en assurant à ceux de nos concitoyens qui souffrent le plus des moyens d'exister avec des aides sociales. Nous travaillons sur la jeunesse avec le service civique. Bref, ces orientations-là, elles les partagent. Après, Notre-Dame-des-Landes, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Moi, ma position, elle est très simple. Il y a des recours qui ont été faits. Une fois que ces recours seront purgés, je demande à ce que le gouvernement fasse dégager la zone. Il ne peut pas y avoir de zone de non-droit. Il ne peut pas y avoir de zone de non-droit dans notre pays. Ensuite, par rapport à la construction ou pas, vous savez, ça fait 40 ans que l'on en parle, y compris lorsque Jean-Marc Ayrault était Premier ministre. Et l'aéroport ne s'est pas fait, parce que tout cela est très compliqué.
Et le gouvernement a toujours dit qu'il se fera.
Oui, il se fera, bien sûr. Donc, il faut dégager la zone. Et pour essayer de sortir par le haut, faire en sorte que tout se passe bien sur place, parce que la situation sur place est assez difficile, il y a un référendum qui est proposé. Je ne sais pas comment il va se mettre en place. J'espère qu'il le sera.
C'est et puis, pas on verra un nouveau bien. Bourbier, ce référendum, qui paraît très compliqué à mettre en place, justement.
C'est toujours très compliqué.
Personne ne veut l'organiser.
On verra, pour l'instant.
Le Premier ministre a dit avant l'été.
Ça a été annoncé il y a quelques jours. Moi, j'espère que le référendum aura lieu avant l'été. Il faut se mettre d'accord sur l'aire géographique de ce référendum. Et puis voilà, consulter la population, c'est pas forcément un drame. Et puis nous verrons bien ce qu'il sortira. Mais là, au bout du référendum, si la population est pour, il faudra que l'aéroport se fasse. Et si la population est contre,
il faudra que le gouvernement avale son chapeau.
Si je vous suis, c'est qu'on va au bout des recours. On envoie les gendarmes pour dégager les
jadistes. C'est ma position.
Et ensuite, on fait le référendum, c'est ça?
Non, mais
on prend le risque à ce qu'il y ait des heurts avec les opposants.
On prend le risque. Moi, je suis désolé. On peut
aussi faire le référendum et si c'est Louis qui gagne, dire aux opposants, maintenant, il faut rentrer chez vous parce que la population a gagné.
Ça peut être en même temps. Vous savez très bien que ceux qui sont sur place ne sont pas des habitants du secteur. Beaucoup d'étrangers, beaucoup de gens alternatifs, d'anarchistes, ce qu'on appelle les
mobiliers. Des agriculteurs qui sont expropriés et qui ne veulent pas partir.
4 sur 65.
Mais c'est quand même 4.
Oui, c'est 4, bien sûr, qui sont des militants et que je respecte absolument. Mais enfin, les 60 autres sont partis parce que ça a été fait bien correctement avec des négociations et des indemnisations. Voilà, donc le référendum avant l'été, c'est dans quelques mois, quelques semaines. Et puis si ce référendum peut se faire, moi je trouve que c'est une très bonne idée. Ça fait quelques temps déjà que je pensais que c'était l'idée pour sortir vers le haut. S'il peut s'organiser ce que je pense, eh bien après il faudra respecter le résultat de ce référendum d'initiative locale qui, je pense, être une bonne chose pour sortir tout le monde par le haut là-bas. Parce que, d'après ce que je crois savoir, il y a beaucoup de divisions autour de Notre-Dame-des-Landes et dans la Loire-Atlantique comme autour. Il y a autant de gens qui expliquent avec beaucoup de conviction qu'il faut le faire, c'est indispensable, et beaucoup de gens qui expliquent avec autant de conviction qu'il ne faut pas le faire que pour diverses raisons. Moi, je ne parle pas de ceux qui sont sur des postures politiciennes ou sur des postures associatives. Je parle de ceux qui font ça avec conviction. Et c'est cela qui m'intéresse.
C'est un peu cloche-merle. Réformer la France, c'est important aussi. On a entendu François Hollande il y a quelques jours à la télévision, lors d'une interview, il a dit cette petite phrase « Si ça ne tenait qu'à moi, les réformes iraient encore plus vite ». Donc un sentiment qu'il y a quand même une part d'impuissance chez lui. Ça me fait penser un peu à la chanson « Je voudrais bien, mais je peux point ». Aujourd'hui, il reste peu de temps. 2017, on le sait, sera pas une année de réforme. Est-ce qu'en un an, il a le temps de toucher au code du travail? On sent un président combatif mais impuissant.
Non, il est combatif, il n'est pas impuissant du tout. Les réformes ne commencent pas depuis jeudi soir, elles ont commencé en 2012. Simplement, que constatons-nous? Et les Français d'ailleurs s'en rendent compte, et vous-même sur tout un tas de sujets. Pour qu'une loi, une fois qu'elle est déposée en Conseil des ministres, soit votée, il faut parfois un an et demi. Ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible à l'heure d'Internet, à l'heure des réseaux sociaux, au moment où tout va vite. Si on veut réformer, faire une grande réforme, il faut avancer. Nous parlions tout à l'heure de la déchéance de nationalité. Franchement, quoi. Moi, quand je suis dans la Drôme, chez moi, dans ma ville ou dans mon département. Tout le monde s'en fout. Ils me parlent pas de la déchéance de nationalité. Ils sont tous pour et qu'on n'en parle plus. Mais ce qu'ils disent, mais arrêtez de parler de ça. Ce n'est pas ça notre enjeu aujourd'hui. C'est l'emploi, c'est le logement, c'est la sécurité.
Ouais, c'est le président de la République qui l'a mis sur la table. C'est pas les médias.
Mais c'est pour éclairer ce que vous venez de dire. C'est beaucoup trop long. Ce texte-là, comme les autres, c'est beaucoup trop long parce que les procédures parlementaires sont trop longues. C'est pour ça qu'il y a un projet de réformer nos institutions. Nous y avons travaillé. Ce n'est pas possible aujourd'hui qu'il faille 1 an et demi à 2 ans entre le moment de déclenchement et l'application d'une loi. C'est dans ce sens que le président de la République, il n'est pas du tout impuissant. Il dit, trouvons les solutions pour légiférer plus
vite. Pourquoi il dit, ça ne tenait qu'à moi, ça irait plus vite.
Mais je vais vous expliquer. Les lois seraient faites, alors c'est un peu technique pour nos...
C'est pas les syndicats quand ils parlent de blocage.
Ah non, pas du tout. Parce que toutes les lois seraient mises ce qu'on appelle dans la procédure d'urgence, avec une seule lecture dans chaque assemblée. Aujourd'hui,
gauche a critiqué quand la droite faisait ça et qu'il était au gouvernement.
Mais évidemment, parce que sur certaines lois, l'urgence n'est pas la meilleure solution parce que 2 lectures, ça peut arranger les choses. Mais
c'est le temps de la démocratie.
D'accord avec vous, Lilian Alemania, c'est le temps de la démocratie. Mais aujourd'hui, nos concitoyens, le temps de la démocratie, veut qu'il soit plus court.
Qui voudrait aussi que ça aille plus vite, c'est Emmanuel Macron. Et dans ce remaniement, on a l'impression qu'il a été un petit peu enfoncé, dissimulé.
Il a gardé son ministère. C'est un très bon ministre.
À même d'incarner ça, cette volonté de mouvement. Vous dites c'est l'économique, le social. La ligne, elle reste la même. C'est lui qui l'incarne.
Macron, il incarne sa ligne que l'on connaît bien. C'est une ligne lui aussi très réformiste. Il veut défricher, il veut aller plus loin. Et Emmanuel Macron fait aussi du bien à la gauche. Donc il est resté ministre de l'économie. Il continuera à faire cela. Il est très critiqué par les uns, très soutenu par les autres, et comme d'habitude, il faut faire en sorte qu'il soit au milieu de ce pôle réformiste, entre les tenants de ceux qui veulent un peu plus de social et les tenants de ceux qui veulent un peu plus libérer l'économie. Mais le pacte de responsabilité, c'est tout à fait cela. 41 milliards de baisse de charges pour les entreprises, ça n'est jamais arrivé dans notre pays.
Justement, le pacte de responsabilité, Manuel Valls a dit hier qu'il voulait éventuellement conditionner les aides si les engagements du patronat en matière d'emploi n'étaient pas respectés. Alors, est-ce que ça signifie qu'il va y avoir un vrai changement de ton vis-à-vis du MEDEF, ou c'est justement ce que vous disiez tout à l'heure, un mot que vous employiez, la posture, une posture qu'on a déjà eue d'ailleurs, fermeté, mais...
Non, parce que ça suffit. Moi, je défends le pacte de responsabilité, l'engagement du président de la République et le CICE, 41 milliards de baisse de charges, parce que tous les chefs d'entreprise que je rencontre chez moi, dans mon département, disent que sans cela, certains auraient mis la clé sous la porte, d'autres n'auraient pas pu investir 5 000 ou 10 000 euros dans une machine. Je revois le badge qu'avait M. Gattaz, président du MEDEF, à son veston. 1 million d'emplois créés si on baisse les charges. On a baissé les charges, il n'y a pas 1 million d'emplois créés. Mais tout ça, on pourrait dire que c'était de la com. Mais ce qui se passe aujourd'hui,
pas de la com.
Non, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que sur les accords de branche, il y a eu une signature, je crois, de 18 ou 19, mais il en manque encore plusieurs dizaines. Donc il faut accélérer cela. Quand le Premier ministre parle de cela, il ne parle pas des PME, des TPE, mais il parle des grands groupes, des grandes entreprises qui pourraient faire des efforts. Quand on a plusieurs dizaines de millions, voire centaines de millions de baisses de charges, alors il doit y avoir la contrepartie de création d'emplois.
Mais c'est pas la première fois qu'il le dit, Manuel Valls.
Oui, c'est pas la première fois.
Et il se passe rien du côté du MEDEF.
Et ben peut-être.
C'est pour ça que je disais, est-ce que c'est pas encore une posture, de com aussi du gouvernement.
Non, parce que lorsqu'il va jouer en Josas à l'université du MEDEF, il leur dit, je compte sur vous, j'aime l'entreprise. Oui. Il est applaudi debout. Et nous devons être gagnant-gagnant. Nous vous donnons les moyens, des marges de manœuvre, vous n'avancez. Et vous, avancez. Ils n'ont pas avancé. Donc maintenant, la position du Premier ministre, qui à mon avis est la bonne, dans les semaines qui viennent, terminer les accords de branche, il y a accord ou il n'y a pas accord, et si ça ne va pas assez loin, ben nous changerons légèrement la loi du CICE et que pour certaines entreprises, nous accorderons les baisses de charges en fonction de d'emplois.
Les patrons ont déjà répondu, attention, rupture de la
confiance.
Oui,
bien sûr, d'accord, mais les patrons, ce ne sont pas eux qui dictent la loi au gouvernement et qui dictent la politique gouvernementale. Mais moi, ma position personnelle, c'est de ne pas aller jusque-là et c'est d'espérer que l'on reste tel que ça a été annoncé.
Merci Didier Guillaume, c'est la fin de la première partie de Mardi Politique. Nous retrouvons notre invité, donc Didier Guillaume, sénateur de la Drôme. dans quelques minutes.
Notre envoyé spécial permanent à Dakar.
Organisé, c'est ce que montre ce reportage de la correspondante de RFI à Pékin, Heike Schmidt.
RFI. Mardi politique, en partenariat avec Libération et France 24.
Valérie Gass.
Bonsoir, bienvenue dans la seconde partie de Mardi Politique avec notre invité Didier Guillaume, sénateur de la Drôme et président du groupe socialiste au Sénat. Toujours à mes côtés, Lilian Alemania de Libération et Roselyne Fèvre de France 24. Oh, oui, c'est ça. Non, je croyais que je m'étais trompée. Je croyais que j'avais inversé, mais non. Didier Guillaume, Manuel Valls a dit hier, il était dans une espèce de réunion publique, meeting, dans son fief à Corbeil-Essonne, qu'il était défavorable à une primaire de la gauche qui aille de Mélenchon à Macron. Hein, c'est un peu ce qu'avait suggéré pourtant Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du PS. Il a évoqué des positions irréconciliables à gauche. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos du Premier ministre ?
Il y a des positions irréconciliables à gauche. Je pense qu'il faut le constater. Nous avons besoin aujourd'hui de regarder ce qu'est la gauche. Nous évoquions au début de notre émission ceux qui veulent réformer, ceux qui veulent être plus dans la contestation. Et aujourd'hui, parler d'une primaire, lorsque l'on sait que Jean-Luc Mélenchon dit hors de question que ce soit avec les sociaux traîtres, hein, pour employer un mot ancien avec ceux qui gouvernent aujourd'hui, quand Pierre Laurent, je regrette, secrétaire général du Parti communiste français, dit « ok pour une primaire, mais à condition que ce ne soit pas avec des gens qui soutiennent le gouvernement actuel », alors je dis « c'est pas possible d'avoir une primaire ». Soit c'est une primaire de toute la gauche, et tout le monde se dit à la fin « celui qui est désigné sera le candidat unique de la gauche », et là ça pourrait s'entendre, soit ce n'est pas le cas, et c'est compliqué. Mais pourquoi moi je suis opposé à la primaire, pour ce premier argument qui est de fond, qui est vraiment important? Mais parce que lorsque l'on a le président de la République, si le président de la République souhaite se présenter à l'élection présidentielle, à nouveau, comment peut-il à la fois s'occuper de terrorisme, s'occuper de l'Europe, de la sortie ou non de l'Angleterre, des réfugiés, de la sécurité, de l'éducation, de l'économie, et puis aller battre les tribunes le soir dans toute la France pour débattre face à des...
Ça s'aménage une primaire peut-être avec un président. C'est pas obligé d'avoir une campagne qui dure des mois, ça peut s'organiser. Et quand on a un président dont la cote de popularité ne cesse de baisser, qui a une courbe du chômage qui ne s'inverse décidément pas, qui n'est pas en position forcément de légitimité totale pour être candidat, est-ce que c'est pas un moyen, on parlait de Notre-Dame-des-Landes et du référendum pour sortir par le haut, de relégitimer cette candidature?
Vous savez, le président de la République, il est légitime parce qu'il est président de la République. Donc moi, je n'accepte pas, je respecte ce que vous dites, mais qu'on puisse dire, et sa légitimité est en cause. Tout peut s'aménager.
À être de nouveau candidat.
Je pense qu'il a mieux à faire que de se lancer dans la primaire, mais on verra ce qu'il décidera, s'il décide d'y aller ou pas.
Attendez, ça veut dire que les primaires, pour vous, c'est fait pour l'opposition uniquement ?
Oui, je crois. Je crois, très sincèrement. Nicolas Sarkozy n'avait pas fait de primaire lorsqu'il était président de la République. Nous l'avons inscrit dans les statuts du Parti socialiste. Donc aujourd'hui, on nous dit oui, mais c'est dans les statuts.
Mais même François Hollande, à l'époque, avait reproché à Nicolas Sarkozy de ne pas se prêter à ce jeu-là en disant nous-mêmes, il faudra qu'on se prête à chaque exercice.
Il a changé d'avis.
À cet exercice.
C'est possible. En tout cas, moi, je pense que vraiment, ce serait plus un handicap qu'un avantage. Maintenant, s'il y avait toute la gauche en se disant un seul candidat de gauche et on y va, ça se discuterait. Mais en même temps, je vous le redis, il a beaucoup de choses à faire, le président de la République, que d'aller, parce que s'il y a une primaire, il y a débat. Et s'il y a débat, ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, moi je pense
que les
Français...
Et puis il y a 50 nuances de socialistes aussi, pas sûr.
Oui, mais c'est pas le sujet de 50 nuances de socialistes, parce que alors là...
Ça peut aussi l'être.
Pour le coup, si François Hollande était...
Non, mais enfin, entre ce que vous appelez les réformistes, entre les sociaux-libéraux et puis Mélenchon, il y a quand même... une abîme.
C'est pour ça que je crains que ce soit irréconciliable. Je le regrette.
Mais ça veut dire que vous ne reprocherez pas d'autres candidatures comme celle de Jean-Luc Mélenchon, comme celle de Cécile Duflot?
Bien sûr que non. À partir du moment où il n'y a pas la possibilité de faire une primaire de toute la gauche, chacun devra prendre ses responsabilités. Et moi, je ne reprocherai rien à personne à l'ère du tripartisme, à l'ère où aujourd'hui, l'objectif pour la droite et pour la gauche, c'est d'être au deuxième tour face
à
l'extrême
droite. Mais justement, est-ce que plusieurs candidatures à gauche, c'est pas l'élimination assurée au second tour ?
C'est pas l'élimination assurée, mais c'est moins bien que s'il n'y avait qu'une candidature. Mais enfin, on voit bien aujourd'hui que...
Pas construire avant cette candidature unique.
Oui, mais construire cette candidature unique en excluant ceux qui gouvernent, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux, c'est pour ça que je ne comprends pas cet appel à la primaire. D'ailleurs, habituellement, lorsqu'on lance des opérations sur Internet, elles prennent beaucoup, 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 plusieurs centaines de milliers. Là, je m'aperçois que ça prend pas énormément, mais enfin, je comprends qu'il y ait des gens qui veuillent cette primaire.
Ça s'organise un peu quand même. Même le Parti Socialiste, maintenant, discute. Il y a un comité stratégique d'organisation de la primaire.
Vous me demandez mon avis. Mmh. Mon avis est... Je pense qu'il ne faut pas de primaire et que François Hollande doit être notre candidat. Je vous dis également que s'il y a une primaire de toute la gauche et que tout le monde s'engage à être derrière le candidat désigné, pourquoi pas ? Mais il est bien normal que le Parti Socialiste discute avec les partenaires de gauche. Nous sommes quand même des partenaires, nous sommes de gauche, sur comment éventuellement travailler pour cette primaire. Mais je constate que depuis 2012 maintenant, même avant la moindre loi votée, les communistes ne votent pas la confiance. Les amis de Jean-Luc Mélenchon sont contre, avec des termes terribles vis-à-vis du président de la République. Donc, quand Manuel Valls dit hier soir, dans sa circonscription, dans son ancienne circonscription, il commence à y avoir des points de vue irréconciliables, je le crains. Je n'en suis pas content, mais je le crains.
Si la gauche échoue en 2017, est-ce qu'il y aura un éclaircissement sur, dans le fond, ceux qui pensent que gouverner c'est trahir, hein, les socialistes un peu old-fashioned, et puis les nouveaux, les réformistes, comme vous les appelez, plutôt sur une ligne, on va dire, blairiste, même si c'est plus à la mode. Est-ce qu'il peut y avoir cette fameuse scission dont on parle depuis tant de temps et qui n'arrive jamais ?
Oui. Dépassement.
Oui, on parle toujours de scission. Aujourd'hui, le Parti Socialiste a parlé de dépassement. Il faut dépasser le Parti Socialiste.
Premier ministre hier aussi.
Oui, on voit très bien que les socialistes seuls aujourd'hui ne peuvent pas gagner une élection présidentielle. C'est bien évident. Ça, c'est un constat. Mais je pense qu'un candidat socialiste, en l'occurrence François Hollande, peut gagner l'élection présidentielle à condition de continuer à réformer, à condition qu'il y ait des résultats, mais aussi qu'il y ait des premiers rassemblements. Et en ce sens, le remaniement ministériel de la semaine dernière avec l'entrée d'écologistes au gouvernement est un premier pas. Et après, nous allons nous adresser, il faudra s'adresser aux électeurs. Certes aux partis politiques, mais aux électeurs. Et dire à ces électeurs, voilà le choix que vous avez. Après, dans un deuxième temps, vous avez raison dans votre interpellation, après l'élection présidentielle ou au moment de l'élection présidentielle, là, il faudra qu'il y ait une vraie clarification et que l'on sache dans quelle direction on va. C'est quoi le social-réformisme ? C'est quoi l'ultralibéralisme ? Et il y a des gens qui peuvent se positionner là au milieu. Et je crois que ça sera quelque chose de très important. Mais pour l'instant, nous avons évidemment un ancrage à gauche que nous voulons garder. Les mesures que nous prenons, que prend ce gouvernement, sont des mesures qui vont dans le sens à gauche au niveau du social. Mais en même temps, on ne peut pas rester sur les vieilles lunes de la SFIO, sur les vieilles lunes du Parti Socialiste d'Épinay, sur les vieilles lunes de mai 68. Nous devons dépasser tout cela.
Lilian l'a rappelé, il a parlé de dépassement hier à Manuel Valls. Il a aussi dit que sa voix, il n'a pas dit notre ou celle du gouvernement, ou sa voix compte car elle correspond au projet dont le pays a besoin. C'est ce que vous venez d'expliquer, c'est cette voix-là qui correspond. Et est-ce que c'est majoritaire, ça même de la gauche ?
Parce qu'en primaire, ça fait 5%.
Aux dernières primaires, oui. Mais parce que François Hollande a fait un très gros score. Et parce que nous avons eu 3 millions
d'électeurs.
Tout à fait sur la même position.
Non, mais ça a toujours été le cas. Il y a toujours eu des courants de pensée au sein du Parti Socialiste. Il y a toujours eu un panel, comme vous l'évoquiez. Je ne sais pas s'il y a les old fashion et la new wave. Mais en tout cas, il y a toujours eu des sensibilités différentes. Aujourd'hui, entre François Hollande et... Manuel Valls, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas une feuille de papier à cigarette, comme ça avait été dit en son temps, mais ils sont totalement sur la même ligne, les mêmes orientations. Voilà. Et c'est ça qui compte. Et la voix de Manuel Valls est forte parce qu'elle compte, parce qu'il est chef du gouvernement, il est Premier ministre. Et celle du chef de l'État compte aussi. Moi, vous savez, le chef de l'État, il oriente la politique, et en même temps, il y a tellement de fronts au niveau international. Il sera en fin de semaine au Conseil européen. Il recevait David Cameron hier. Il s'occupe de la Syrie, il s'occupe de la Centrafrique. La France est en guerre. Il y a la guerre contre le terrorisme. Il y a beaucoup de choses internationales à faire. Il le fait très bien. Et c'est la répartition des rôles de l'exécutif. Mais le président de la République, François Hollande, a une voix qui porte en France. Aujourd'hui, elle n'est pas beaucoup entendue. Pas assez entendue. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons assez simples, à mon sens. D'abord parce qu'il manque, et je veux le dire ici, il manque un peu de sens à l'action qui est menée par le chef de l'État et par le gouvernement. Et moi, je demande, j'appelle, j'espère que dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent, le chef de l'État et le Premier ministre pourront donner encore un peu plus de sens à notre action, parce qu'elle est claire, elle est crédible, mais elle n'est pas assez mise en avant, et la politique n'est pas assez défendue par le Parlement et par le...
Vous voulez pas plutôt dire que la ligne conceptuelle est là, mais que la mise en route est difficile?
La mise en route, c'est ça
qui bloque. C'est ça qui bloque quand même, là.
Mais bien sûr que la mise en route...
Parce que la ligne, elle est là, vous cessez de le dire.
Non, mais on parlait de la ligne économique. C'est difficile. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas encore assez de résultats. Mais les bases sont mises en place. Bah oui, quand je dis ça aux gens que je rencontre, ils me disent « mais ça va pas la tête ». Vous dites qu'il y a une éclaircie, mais moi j'ai un problème de logement, j'ai un problème d'emploi, etc. Nous en parlions tout à l'heure. Donc c'est une réalité. Pour que les gens s'aperçoivent des choses positives, il faut que ce soit des choses concrètes. Les gens réfléchissent globalement, mais voient aussi à l'aune de leur propre individualité, de leur propre famille aussi. Donc nous travaillons dans cette direction. J'espère que nous aurons des résultats. Mais il commence à y avoir des résultats. On citait tout à l'heure quelques mesures sociales. Enfin, dans l'éducation nationale, il y a eu des fermetures de postes, nous avons recréé. Il n'y a plus de fermetures de postes en zone de postes d'éducation nationale, de classes en zone rurale. Enfin, des exemples, il y en a à l'appel. Mais les gens aujourd'hui, ils ne voient pas cela, parce qu'on ne voit que la ligne du chômage.
Ça fait encore débat aussi au sein de la classe politique. Et Christiane Taubira, qui vient de sortir très récemment du gouvernement, on s'en souvient, publie une interview demain dans Les Inrecuptibles, et elle déclare que la gauche ne doit pas accompagner la droitisation du pays et qu'elle est prête à combattre pour cela. Visiblement, même dans la classe politique, ça passe pas très bien la ligne du gouvernement.
Oui, ben, c'est la vie démocratique, c'est le débat démocratique. Moi, je pense que nous sommes sur une ligne qui a été validée. Ce gouvernement n'a jamais été une seule fois depuis 2012 impuissanté dans son action politique. Il y a eu une fois recours au 49-3. Donc au vote bloqué, mais mis à part ce texte-là, le texte Macron, le gouvernement n'a jamais été impuissanté. Il y a une majorité encore à l'Assemblée nationale pour voter les textes. Une grande majorité de socialistes soutiennent ce gouvernement. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas sur cette ligne. Ils sont une poignée. Il faut les respecter. C'est une réalité. Mais pour l'instant, le gouvernement gouverne et il a une majorité sur laquelle s'appuyer. Donc continuons.
Lilian Lemagnard.
Vous pensez, comme le dit Christiane Taubira, qu'il y a une droitisation de la société française aujourd'hui ?
Il y a une extrême droitisation de la société française. Moi, je le vois dans toutes les zones rurales. Pourquoi il y a cette
extrême droitisation,
oui,
ou droitisation ?
Une extrême droitisation de la société française, parce que le Front National progresse. Marine Le Pen a fait 6 millions de voix à l'élection présidentielle de 2012, 8 millions aux élections régionales, ça peut encore monter demain, parce qu'on est dans l'ère du tripartisme, parce qu'aujourd'hui les Français regardent cette société avec beaucoup de difficultés, cette société anxiogène, cette société qui fait peur. Elle a l'impression que la droite a gouverné, qu'elle n'a pas eu beaucoup de résultats, que la gauche a gouverné, qu'elle n'a pas beaucoup de résultats. Et donc, essayons la troisième voie. C'est cette extrême droitisation, c'est pas uniquement en France, c'est en Europe. Regardons comment l'extrême droite monte dans tous les pays d'Europe, malheureusement. Bien nous, il faut faire ce combat contre, et lutter contre l'extrême droitisation de la société, c'est tenir un discours clair que les Français comprennent. C'est s'occuper d'eux. Les Français en ont marre de voir ces débats stériles à la télévision, de voir ces débats stériles des politiques. Ils pensent que les politiques ne pensent qu'à eux-mêmes et ne s'occupent pas de leurs problématiques locales. Et nous, notre rôle, moi mon rôle comme sénateur dans mon département, comme président du groupe socialiste et républicain au Sénat, c'est de montrer que les parlementaires de gauche s'occupent de leur vie quotidienne. Et cette démonstration, nous pouvons leur faire sur beaucoup de sujets. Après, je pense qu'ils attendent, dans le dépassement qu'évoquait Lilian Alemania tout à l'heure, c'est le dépassement aussi du responsable politique, le dépassement de la politique, et dire quel sens nous donnons à notre action.
Il n'y arrive Europe, toujours pas, ça, François Hollande. Hein, il vient d'intervenir à la télévision, là, il y a quelques jours.
Et... Ben non, il n'y arrive pas. Non, et c'est pas qu'il n'y arrive pas, c'est que ça ne prend pas dans la population. Donc, nous essayons de trouver, de regarder comment nous pouvons, dans la vision stratégique que nous avons, faire en sorte que les choses s'améliorent.
Roselyne Favre.
Et dans cette modernisation de la vie politique, est-ce qu'il ne faudrait pas, ça fait 30 ans qu'on voit les mêmes objectivement, est-ce que quand un homme politique perd, eh bien pourquoi systématiquement il retrouve son poste? Je vous donne un exemple, Claude Bartolone. Claude Bartolone, pendant la campagne des régionales, il perd. Il insulte son adversaire et il retourne sur son perchoir, personne ne dit rien.
Non mais...
voilà, non mais... Aussi, vous voyez, vous dites les Français en ont marre, mais parce que la droite a délégitimé la gauche, la gauche a délégitimé les droites. Donc, résultat, les gens se tournent vers l'extrême droite. Donc, c'est aussi c'est la faute de beaucoup de gens, des médias, de vous, de nous. Mais est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas aussi
dans les médias,
une façon de fonctionner de la vie
politique?
Les médias
commentent ce qu'ils voient. Moi, j'accuse pas les médias de rien du tout. Ça
non,
serait totalement
bon,
absurde.
C'est vrai que parfois,
vous écrivez en fonction de ce que vous...
On peut faire notre journalisme.
Et parfois, peut-être, sûrement, mais tout le monde doit le faire. Mais aujourd'hui, on voit bien que la vie politique ne va pas. La vie politique va mal et notre rôle, c'est pas de la faire plonger dans le caniveau, c'est au contraire de la relever. Moi, voilà. Je me bats tous les jours pour dire que la politique, c'est noble, c'est beau, que la politique, il faut la défendre.
Oui, mais quand on perd,
il faut s'y engager. Alors. Il y a des lois pour ça. La loi limitant le cumul des mandats, elle est indispensable. Et on peut encore aller plus loin. On peut pas rester 2, 3, 4, 5 mandats, 40 ans au même poste. Il faut le changer. Mais la question que vous posez sur Claude Bartolone, excusez-moi de vous dire, je pense que ça n'a rien à voir. Puisqu'il se présentait à une élection.
Mais il a perdu.
Il n'a pas été élu.
Quand on perd.
Mais quand on perd, il n'a pas été élu. Donc il a démissionné du poste de conseiller régional. Maintenant, il a été élu député en 2012. Il a été élu président de l'Assemblée nationale par ses pairs en 2012 et il est président de l'Assemblée nationale jusqu'à la fin du mandat. Je veux dire, ça, c'est pas rabaisser la politique que de dire j'exerce mon mandat jusqu'au bout.
Mais il a dérapé aussi.
Non, mais ça, c'est une autre. Moi, vous savez, dans ce pays, il y a une sanction, une seule. C'est la sanction du suffrage universel.
Il a perdu, en l'occurrence.
Mais le peuple a toujours raison, même quand ça nous fait mal. Il a perdu les élections régionales. Il a perdu les élections régionales, mais il a gagné les législatives, il est encore député.
Alors, Didier Guillaume, avant de passer au chapitre révision constitutionnelle qui vous concerne directement au Sénat, je vous propose d'écouter un petit son de Jean-Pierre Raffarin. Il était ce matin sur France Info et il évoque la primaire, mais cette fois-ci à droite.
Je dis à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui que s'ils veulent participer au choix du candidat du centre et de la droite, on veut faire 4 millions, il faut surtout donner de la force et de la légitimité. Parce que peut-être que c'est la primaire de la droite qui va désigner le prochain président de la République, tellement la gauche est fragile.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez? La gauche est tellement fragile que tout va se jouer lors de la primaire à droite?
Ah non, pas du tout. Peut-être que la primaire de la droite désignera le futur candidat de la droite pour la présidentielle, ça c'est sûr. De là à dire que ce sera le futur président de la République, je n'en suis pas si sûr.
Vous craignez que des gens de gauche aillent voter
non,
la primaire?
Non, mais on disait pareil en 2012 pour nous, vous savez... Dans toutes les communes, on se connaît. Quelqu'un qui serait socialiste, qui irait voter à droite pour choisir tel ou tel candidat.
Dans les grandes villes, c'est plus facile.
Ça n'a, à mon avis, aucun sens. Puis ça ne marche pas. Puis c'est pas ça qui ferait changer. Vous savez, s'il y a 3 millions de votants, comme nous avons eu nous à la primaire, c'est pas une poignée de personnes qui voudraient s'amuser, qui feraient changer quoi que ce soit.
Mais vous n'avez pas l'impression que cette primaire à droite, elle peut donner vraiment un élan à celui qui en sortira vainqueur?
En tout cas, pour l'instant, j'ai bien l'impression que la droite, nous on n'est peut-être pas flamboyants, enfin la droite est empêtrée dans plein d'histoires.
Je pense
à leur division interne sur les sujets. Ils sont d'accord à peu près sur rien. On le voit tous les jours avec les candidats à la primaire. Nous allons parler de la déchéance dans un instant, donc c'est pas ça le sujet. Ils ont une primaire, j'espère qu'elle réussira, nous l'avons réussi, à eux de faire le travail, mais c'est pas ça qui réglera les choses du pays.
Alors, Didier Guillaume, la semaine dernière, les députés ont adopté la révision constitutionnelle. Le texte a été modifié par rapport au texte d'origine, notamment sur l'article 2 qui concerne la déchéance de nationalité. Et même si la majorité des 3/5 a été atteinte à l'Assemblée nationale, il y a quand même eu beaucoup de votes contre, à droite comme à gauche. Maintenant, c'est dans votre camp. Le projet de réforme va être examiné au Sénat. Le vote, je crois, aura lieu le 22 mars prochain. Qu'est-ce qui va se passer maintenant au Sénat et comment vous analysez le vote de l'Assemblée et comment vous allez gérer l'arrivée du texte au Sénat?
Regardez comment cela va vite, parce que vous dites, même s'il y a eu 3/5 à l'Assemblée, maintenant c'est au Sénat. Mais
parce que c'est pas les 3/5 du Parlement.
Bien sûr, mais plaçons-nous il y a 2 semaines, il y a 15 jours, tout le monde disait il n'y aura pas de la réforme ne passera pas à l'Assemblée. Et puis non seulement elle est passée, mais elle a eu les 3/5. Donc c'est une vraie réussite pour le chef de l'État, pour le gouvernement, mais plus que ça, pour la France. Parce qu'en moment, en période de terrorisme, l'unité nationale, elle est indispensable. Mais il y a eu des dégâts à gauche et des dégâts à droite. Moi, j'appelle un chat un chat. Maintenant, elle arrive au Sénat. Le président du Sénat et le président du groupe Les Républicains au Sénat a dit « Nous allons réécrire le texte. On va voir ce qu'il en sera. »
Ils veulent revenir au texte d'origine, à la proposition du Congrès de François Hollande qui stipulait qu'il y avait des binationaux.
Oui, nous verrons ce qu'il en est. Le choix qui a été, le vote qui a été émis à l'Assemblée est un choix de compromis. Ce n'est pas de stigmatisation, on ne montre pas du doigt les binationaux. Parce qu'on parle de terrorisme de toute façon et de terroristes. Mais enfin, les binationaux ont pu se sentir concernés. Ça a été enlevé. Je pense que ce point d'atterrissage va dans le bon sens. Après, moi, ce que je veux dire aux sénateurs de droite, c'est deux choses très simples. Un, la réforme constitutionnelle, donc la nation française, donc la France, ne peut pas être prise en otage à l'aune des primaires de la droite. Ce n'est pas parce que aujourd'hui Alain Juppé ou François Fillon veulent se taper Nicolas Sarkozy sur la déchéance de nationalité qu'il faut que ça se passe comme ça au Sénat, parce que la France nous regarde, les Français nous regardent et leurs électeurs les regardent. Ensuite, je pense qu'il y a moyen de trouver un terrain d'entente au Sénat. Soit en première lecture, ça me semble peut-être difficile, soit en deuxième lecture, c'est un peu technique, mais enfin lorsque le texte reviendra.
Reviendra au Sénat après être reparti à l'Assemblée. C'est ce qu'on appelle la navette.
La navette, c'est-à-dire dans les 15 jours après le premier. Pourquoi ? Parce que ce dont il s'agit, un, c'est de montrer que l'unité nationale existe bien. Et là, dans ce cadre-là, le président Sarkozy l'a dit très clairement. Je ne suis pas d'accord sur le fond avec lui, mais sur ce sujet, il a raison de dire que l'unité nationale doit l'emporter. Parce que nous devons envoyer un message aux terroristes, un message au pays qui arme les terroristes, un message à toutes celles et tous ceux qui pensent que, en toute impunité, on peut faire ce qu'on veut en France. Moi, je vais vous donner mon sentiment très personnel, et je ne veux choquer personne, mais quelqu'un, un Français, qui veut détruire la France, qui veut tuer la France, il n'a rien à faire en France, il n'a pas à être français.
Vous avez bon
espoir. Et c'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, vous me parlez de Christiane Taubira qui parlait de la droitisation de la France. C'est pas la droitisation de la France. C'est le bon sens des Français. Et moi, quand je rencontre des gens, ils me disent ça. Ils me disent quelqu'un qui veut tuer notre pays, tuer notre nation, il n'a rien à faire dans cette nation. Voilà.
Didier Guillaume, on arrive presque à la fin de cette émission. On a une petite séquence de questions un peu tac au tac. Je vous demanderai de répondre assez vite. Est-ce que c'est dur de rester fidèle à François Hollande ?
Non.
Bah ça, moi, c'est rapide.
C'est du oui-non que vous voulez, je ne développe pas.
Non, vous pouvez dire deux mots après, mais
non,
allez-y.
C'est pas du tout dur parce que c'est la fidélité à un homme, c'est la fidélité à des convictions.
Rosine,
si vous deviez voter aux primaires à droite, vous voteriez qui ?
Je ne vote pas aux primaires.
Si vous votiez ?
Mais je ne vote pas aux primaires.
Si vous votiez ?
Je ne vote pas aux primaires.
Si vous votiez ?
Et à gauche ?
Je ne vote pas aux primaires.
Lilian,
les primaires de la droite ne m'intéressent pas comme responsable politique. Elles m'intéressent comme observateur, mais elles ne m'intéressent pas.
C'est qui le moins pire alors ?
Mais il n'y a pas de moins pire.
Bon d'accord, ok.
Lilian, les manières.
Quel est le projet de loi en 2016 qu'il faut voter pour être élu en 2017 ?
Ah, faut tous les voter pour être élu en 2017.
Non, mais celui qui peut être symbolique.
Je pense que celui qui sera symbolique, c'est celui. Enfin, il y en a deux. Permettez deux. Celui qui sera symbolique, c'est celui sur la justice et celui de lutte contre le terrorisme, mm-hmm. parce que là, on va ouvrir de nouveaux chantiers qui seront très importants. Et l'autre, ça sera le texte de Myriam El Khomri, parce que celui-là, il va ouvrir deux choses, à la fois de la protection sociale. Mais à la fois de libérer l'économie.
Il y aura aussi la petite touche Macron.
Oui.
Qui incarne l'avenir de la gauche, et ce sera vite la fin.
Pardon ?
Pour vous, qui incarne l'avenir de la gauche, après François Hollande, bien sûr.
Ben c'est déjà pas mal pour 2017.
Merci Didier Merci Guillaume d'avoir été notre invité ce soir. Didier Guillaume, sénateur de la Drôme et président du groupe socialiste au Sénat.